L'histoire du peuple hébreu est bien connue. Ils sont libérés d'Égypte où ils étaient esclaves. Ils ont ensuite des aventures dans le désert, longues, difficiles. Et enfin, ils arrivent dans la terre promise. Alors, ce parcours est relu en particulier dans l'Évangile d'une manière spirituelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas libérés des Égyptes, puisque de l'Égypte, des Égyptiens, de l'esclavage, mais nous sommes libérés par Jésus-Christ de l'esclavage du péché, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui trouble notre vie, et nous sommes menés par la parole de Dieu, par l'Esprit-Saint, nous sommes menés dans le chemin de notre vie, et pour arriver à entrer dès maintenant dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une façon d'être avec Dieu, avec les autres, qui soit une façon d'être véritable. Alors je vais vous lire aujourd'hui le récit dans le livre de Josué, le récit de l'arrivée du peuple hébreu en terre promise. Alors en fait, Moïse s'est arrêté malheureusement à la porte de cette terre promise et c'est avec Josué qu'ils vont entrer dans ce pays qui leur avait été promis, pays d'abondance, pays où ils sont avec Dieu. Au livre donc de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 10. Les Israélites campèrent à Gilgal, donc de l'autre côté du Jourdain, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent alors pour la première fois des productions du pays, des pains et du grain rôti. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, la manne, qui était la nourriture que Dieu leur donnait dans le désert pour avancer, cessa. Et elle cessa dès qu'ils commencèrent à manger les productions du pays de Canaan. Il n'y eut plus de manne et ils mangèrent alors des produits du pays de Canaan depuis cette année-là. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou es-tu un de nos ennemis ?» L'homme lui répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué alors tomba le visage contre terre, il se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Alors le chef de l'armée de l'Éternel Dieu dit à Josué, « Ôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est un endroit saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était une ville qui était barrée et barricadée à cause des Israélites qui arrivaient. Personne ne sortait et personne n'entrait dans la ville. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et tous les vaillants guerriers qui y sont. Voilà comment vous allez faire. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 cornes de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Et quand on fera retentir ainsi la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera alors un énorme grand cri. Et alors, les murailles de la ville s'écrouleront sur elles-mêmes et le peuple pourra monter, chacun devant soi, pour prendre possession de la ville. » Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et pour commencer à méditer sur ce texte, je vous propose de chanter le cantique 278, « La foi renverse devant nous », qui est un cantique qui nous propose de compter sur Dieu pour renverser les murailles, ce qui nous empêche d'avancer. Les 3 premières strophes du cantique 278 dans le petit recueil. Alors, c'est le petit recueil bleu. « Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui pourra nous guérir, nous ressusciter, nous nourrir, nous fortifier. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance. Et peut-être qu'à l'occasion de ce culte, nous pourrions recevoir une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et vraiment un cœur de chair pour aimer nos frères et sœurs qui nous entourent. Ceux qui sont en collège, en fait, sont à partir de la sixième, cinquième, quatrième, peuvent rester pour la suite du culte ici même. Si. Mais peut-être qu'ils préfèrent aller avec les petits, je ne sais pas. On verra. Et donc, les Hébreux sont sortis d'Égypte et ils arrivent enfin, après bien des aventures, en terre promise. Et nous le voyons dans ce récit, ils trouvent là de la nourriture, du grain, du pain, et il leur suffit de lever les yeux comme Josué le fait pour sentir la présence de Dieu, une présence forte qui va les aider à avancer. Vraiment, oui, ils sont bel et bien au but de leur marche. Ils sont là avec Dieu et grâce à Dieu dans la terre promise. Mais alors comment se fait-il qu'aussitôt arrivé, le peuple se trouve confronté à une terrible épreuve ? Eh bien, c'est que Dieu n'est pas là pour effacer toute difficulté de la vie comme s'il agissait à notre place avec des coups de baguette magique. Mais Dieu veut nous aider à surmonter et à dépasser les difficultés que nous rencontrons. Et des difficultés sur la route de notre vie, il y en a de toutes sortes. Les adultes pensent parfois que leurs problèmes sont les plus difficiles à surmonter, plus que ceux des enfants, mais ce n'est pas du tout certain que ce soit le cas. Et dès tout petits, les enfants ont des difficultés qui sont réelles et terribles à surmonter. L'histoire de la prise de Jéricho est un véritable mode d'emploi pour faire face aux situations difficiles de l'existence. Et cette histoire nous dit que Dieu vraiment vient à notre aide et qu'il peut nous permettre de gagner contre des difficultés terribles qui, normalement, auraient dû être plus fortes que nous. Remarquons d'abord que Dieu dit que cela va prendre 7 jours de préparation. Oui, il faut du temps. Dieu sera là pour aider, il fera des prodiges pour les rendre victorieux, mais personne ne sort facilement d'une épreuve difficile. Il faut du temps et cela demande aussi notre participation, comme on le voit dans cette histoire. Alors le récit nous dit qu'il faut 7 jours de préparation avant de prendre Jéricho. Dans la Bible, cette durée de 7 jours est bien connue, bien sûr, elle évoque le temps qu'il faut à Dieu, qui est nécessaire pour Dieu, pour créer le monde et pour créer en particulier l'être humain, et le bénir, qu'il reçoive la bénédiction de Dieu à l'aube du septième jour. Et donc ce que nous dit cette histoire de la prise de Jéricho, c'est que pour surmonter une difficulté, il nous faut vivre une sorte de création supplémentaire, une genèse, et recevoir cette bénédiction de Dieu qui nous rend capables d'avancer, de surmonter la difficulté. Et à la réflexion, c'est assez logique, si quelque chose nous pose un problème insurmontable finalement, c'est que la difficulté dépasse nos forces ou bien que la situation est si nouvelle, si troublante, que nous ne savons pas trop comment nous en sortir. Et donc oui, on ne pourra surmonter cette difficulté qu'avec un supplément de création, qu'avec un supplément d'être. Et à vrai dire, il n'y a pas de meilleur créateur que Dieu lui-même. Et donc face à un obstacle insurmontable, difficile, la première chose, ce n'est pas de changer le monde qui nous entoure, le monde extérieur, mais c'est d'abord d'arriver à se changer soi-même avec l'aide de Dieu pour être capable ensuite, eh bien, de transformer le monde qui nous entoure. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu demande aux Hébreux de faire quelque chose pendant ces 7 jours. Et Dieu nous appelle, je crois ainsi, à participer à notre propre création. Et effectivement, dans ce domaine, peut-être que Dieu ne peut pas nous créer malgré nous. Nous ne sommes pas comme de l'argile entre les mains du potier que Dieu pourrait façonner, je dirais comme ça, par la violence, par la force, imposer sa forme. Nous le savons bien, en éduquant les enfants, ce n'est pas comme cela que l'on peut créer un être libre, un être capable de créativité, un être capable d'aimer. Il faut qu'il y ait une participation de l'homme à sa propre création. On se dit que Dieu n'aurait qu'à faire un miracle finalement, et un miracle supplémentaire, et nous rendre assez forts, assez intelligents en un coup de baguette magique, en une seconde, en un instant, pour arriver à nous rendre capables de surmonter les épreuves, les difficultés de notre vie. Eh bien non, ce n'est pas possible. Il ne peut nous faire évoluer dans ce domaine qu'avec du temps et puis avec une certaine pratique, une certaine participation de notre être. Alors les Hébreux auraient pu rire quand Dieu leur demande de tourner en rond autour des murailles en sonnant de la trompette pour détruire une forteresse imprenable. Mais ils connaissent Dieu et qu'avec lui, une toute petite action humaine un peu ridicule peut avoir des résultats absolument extraordinaires et formidables. Et donc, bon, eh bien, ils vont le faire. Ce que Dieu conseille de faire aux Hébreux n'est pas très compliqué ni très fatigant finalement. Ils ont simplement à tourner en rond autour de la muraille de Jéricho, et il semblerait que Jéricho n'était pas une ville si grande que ça, je ne sais pas, 250 mètres sur 250 mètres. Et donc ce n'était pas bien terrible de faire le tour une fois par jour avec leur trompette, leur chauffard, cette corne de bélier qui sonne comme un cor. Même s'il faut qu'ils transportent sur leur dos le coffre d'alliance avec les tables de la loi et puis quelques autres souvenirs de l'Exode, c'est quand même pas grand-chose. Alors, ils devaient faire ça pendant 7 jours sans perdre patience et puis le 7e jour, crier de toute leur force, mais là encore, il y a une certaine liberté, ils peuvent crier ce qui leur passe par la tête. L'essentiel, c'est de crier comme on le sent, tous ensemble. Et alors, les murailles devraient s'écrouler. Alors, ils auraient pu rigoler, bien sûr, devant ce conseil pour vaincre une forteresse comme Jéricho. Mais ils vont le faire, et ils vont le faire le temps nécessaire pour que ça marche. Alors, qu'est-ce que cela nous conseille pour nous, pour faire, qu'est-ce qu'on conseille de faire face aux terribles difficultés que nous pouvons connaître dans l'existence, dans notre vie ? Eh bien, je crois que cette histoire nous propose d'abord de tourner autour du problème. Jéricho est l'image d'une épreuve grave. Il est dit qu'elle était totalement fermée, que rien n'y entrait et rien n'en sortait. Eh bien oui, c'est l'impression que nous avons parfois devant certaines situations dont on pense qu'il ne peut rien sortir de bon et que nous ne voyons absolument pas comment percer le problème, comment pouvoir échanger quelque chose. Eh bien, quand nous sommes ainsi bloqués, je crois qu'il est bon d'abord de faire comme les Hébreux dans cette histoire, de reconnaître que nous sommes trop faibles pour attaquer le problème de face, et puis prendre le temps de tourner autour du problème pour le connaître, pour en voir les limites finalement, pour le circonscrire. Alors bien sûr, le risque de cette démarche est de tourner en rond sans être plus avancé, mais ici, les Hébreux ne tournent pas, j'allais dire bêtement, en rond. Ils tournent en rond, oui, autour de Jéricho, mais en portant le coffre qui contient les tables de la loi données par Moïse, et puis aussi un peu de manne, justement, qui était la nourriture dans le désert, et puis le bâton, et puis encore voilà. Donc c'est ce qu'il nous conseille donc, c'est de faire le tour de ce qui ne va pas dans notre vie, en compagnie de la Bible, en regard de la Bible, en mettant la Bible en regard avec le problème, et de faire aussi le tour du problème avec la mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé, pour les générations passées, le témoignage des générations passées sur les prodiges qu'ils ont pu accomplir pour être plus forts que les difficultés. Alors vous croyez que ça ne sert à rien ? Demandez à des croyants autour de vous ce que cela leur a apporté. Et effectivement, dans le témoignage que nous pouvons avoir les uns pour les autres, nous pouvons avoir cette confiance d'essayer. Car effectivement, ceux qui n'ont jamais essayé ce que ça peut donner de lire la Bible et de la confronter avec notre existence ne peuvent même pas imaginer ce que ça apporte finalement. Alors les Hébreux ne vont pas trouver dans la Bible une astuce toute faite pour, percer les murailles ou faire pour vaincre l'obstacle terrible. Non, la Bible n'est pas finalement tellement un réservoir de recettes toutes faites. Mais la Bible nous aide pour mieux connaître la vie en nous posant les bonnes questions. Et la Bible nous aide à faire confiance en Dieu, à nous ouvrir à l'aide de Dieu pour ce qu'il veut et ce qu'il peut nous apporter finalement. Alors dans un premier temps, les Hébreux, oui, doivent tourner autour du problème avec la Bible et se taire finalement. Ils doivent seulement écouter le son du shofar, cette trompette faite dans une corne de bélier qui évoque la parole de Dieu. C'est le temps où nous faisons silence devant Dieu finalement pour recevoir ce qu'il cherche à nous apporter, un supplément de force, un supplément d'intelligence, un peu plus de foi, un peu d'espérance et d'amour, le temps que nous soyons suffisamment formés pour vaincre l'obstacle. Et alors enfin, au bout des 7 jours, au bout de ce temps de création, où nous nous laissons créer dans cette, je dirais, recherche personnelle, alors enfin ils ont leur mot à dire. Ils ont même ce mot à crier comme une réponse à la parole de Dieu. Chacun est alors libre de crier ce qu'il veut, chacun s'exprime ainsi de toutes les dimensions de son être, avec son corps, avec son intelligence, avec son esprit, avec sa mémoire, avec son désir, avec toutes les dimensions de notre être. Et l'ensemble de ces voix, des différentes dimensions de notre être, mais aussi l'ensemble des voix de tout le peuple, forme un concert dont la force et la beauté est formidable, et même plus forte que les murailles de l'obstacle qui les empêchait d'avancer. Et alors ces murailles tombent d'elles-mêmes, ce qui nous bloquait, ce qui nous empêchait de résoudre le problème, disparaît, et nous pouvons monter et l'emporter facilement contre ce qui nous empêchait d'avancer et ce qui menaçait ainsi notre espérance et notre vie. Alors après la difficile sortie d'Égypte, après les multiples péripéties de la traversée du désert, après Jéricho, l'histoire du peuple hébreu va se prolonger dans la suite du livre de Josué et des Juges, avec d'autres combats, avec d'autres scènes évoquant le secours de Dieu, les difficultés que nous avons à faire vraiment place au droit, à la justice, à la bonté dans notre existence. Et c'est vrai que l'existence humaine finalement est ainsi. Sauf quelques petits moments de paix dans notre existence, nous avons presque toujours l'impression d'être devant un obstacle difficile. La vie est comme ça, finalement. D'abord parce que chaque nouvelle étape de la vie est difficile à franchir et offre pour celui qui veut être vraiment en chemin, qui veut avancer, offre de nouveaux défis. Je suis même persuadé que dans la vie future, il y aura aussi des difficultés propres à cette vie future, purement spirituelle, car la vie en elle-même est comme ça. Et s'il n'y avait plus à avancer dans la vie future, avancer comme dans une terre inconnue où il faut débroussailler un chemin nouveau, eh bien ce ne serait plus la vie, mais simplement la mort éternelle. Et donc je ne sais pas, ceux qui, par exemple, se suicident pour mettre fin à leur jour en se disant « ben voilà, je serai débarrassé des problèmes, je serai dans la paix », c'est pas si sûr, si vous voulez, ils trouveront, je crois, dans la suite, d'autres problèmes, d'autres défis à accomplir, d'autres défis à surmonter. Et c'est cela qui fait la grandeur et la beauté de la vie, faire face à nos défis. Et si des fois des difficultés sont insurmontables, eh bien oui, il faut arriver à reprendre ses forces avec les autres, avec Dieu, se laisser créer, se laisser augmenter pour être plus fort que ces difficultés. Mais d'ailleurs, cette étape de Jéricho évoque littéralement l'entrée dans la terre promise, c'est-à-dire au sens spirituel, l'entrée dans le royaume de Dieu. Donc ça parle de la vie avec Dieu dès maintenant, cette vie qui dure jusque dans l'éternité, donc au-delà même de la survie biologique. Donc cette bataille de Jéricho, c'est ça qui est surprenant, étonnant, c'est qu'elle parle des difficultés dans la vie présente, mais aussi des difficultés de la vie en elle-même, avec cette énergie qu'il faut pour avancer. Dans la Bible, le royaume de Dieu, oui, commence pour nous dès aujourd'hui, dans la mesure où Dieu règne effectivement sur nous. Alors quand je dis « règne », il ne faut pas s'imaginer un gouvernement tyrannique, mais plutôt, comme nous le voyons ici, une œuvre de création de Dieu en collaboration avec nous-mêmes, quelque chose de dynamique qui nous élève, qui approfondit notre foi, qui éclaire notre espérance, qui forme notre intelligence pour écouter, pour entendre, pour mieux aimer finalement. Et donc oui, nous sommes dans le royaume de Dieu quand Dieu est là et qu'il agit pour nous, avec nous, pour avancer, pour surmonter. Et nous sommes bien là, donc dans le royaume de Dieu, c'est ce que l'on voit ici. « Voilà, dit l'Éternel à Josué dans ce récit, maintenant je suis arrivé, je suis avec toi, je suis à côté. » Et nous-mêmes, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, il nous suffit de lever les yeux, oui, pour voir, pour écouter cette présence de Dieu. Josué est donc dans le royaume de Dieu, pour une certaine part, bien sûr. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes aussi sur terre, bien sûr. Et ce royaume, aux surprises, comporte donc encore des combats difficiles, des combats contre des obstacles. Mais en réalité, c'est normal, comme je vous disais, tout cheminement est un effort, tout acte de création, de mise en ordre du monde, mais de notre être aussi, de notre vie, tout ce qui cherche à ordonner le chaos demande un effort, une énergie finalement. Toute réforme, toute conversion ne se fait pas sans combats intérieurs, sans résistance de nos anciens préjugés, sans, je dirais, résistance de nos anciens réflexes de vie, sans réajustement aussi des relations avec nos proches, avec les autres. Et c'est ainsi que je comprends cette phrase vraiment surprenante de l'Évangile où Jésus nous dit que maintenant le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors bien entendu, ce n'est pas une violence contre les autres personnes, ce n'est pas du tout le style de Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a là, à mon avis, une vérité. La vie éternelle est quelque chose d'énergique. La vie éternelle, ou la vie par la foi, finalement, puisqu'il s'agit de la même chose, est ainsi, dans une certaine mesure, un combat. Mais elle est aussi, et nous le voyons dans ce texte, d'abord deux choses qui nous apprêtent pour ce combat. Elle est un repas, et elle est aussi un dialogue avec Dieu. Alors nous avons même le menu de ce premier repas que les Hébreux prennent dans la terre promise. Il s'agit de pain sans levain et de grains de blé grillés, passés à la poêle, je ne sais pas comment ils faisaient. La promesse était pourtant d'arriver dans la terre promise, dans un pays où coulent le lait et le miel. Donc ils attendaient un menu de lait et de miel et ils ont simplement des sortes de pain azim tout sec et des grains de blé passés à la poêle. Alors où sont les gourmandises qui sont le signe réel du royaume dans lequel nous donne d'entrer? Eh bien, le lait et le miel sont dans la présence de Dieu, en fait. Car le lait, c'est ce qu'on donne au bébé. Et effectivement, Dieu est connu dans la Bible comme un père, bien sûr. C'est rappelé souvent dans l'Évangile, mais aussi comme une mère pleine de tendresse qui nous aime, qui nous fait naître et qui nous allaite comme une mère allaite son enfant bien-aimé. Et c'est bien ainsi que nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, par la tendresse de Dieu. Oui, nous sommes faibles et petits, nous butons contre 1000 obstacles, mais une mère n'en veut pas à son bébé d'être petit. Elle lui donnera du lait jusqu'à ce qu'il grandisse un peu, et à travers cette image donc du lait qui est promis dans le royaume de Dieu, c'est l'idée que nous sommes reçus comme un bébé qui est fait pour être allaité par la tendresse de Dieu et pour grandir. Et le miel, évidemment, le miel est produit par des abeilles, c'est un secret pour personne. Eh bien, pour savourer justement ce miel du royaume de Dieu, il faut savoir qu'il y a un jeu de mots qui est évident en hébreu, mais nettement moins en fait en français, entre le mot « abeille » et le mot « parole » qui sont en fait de la même racine en hébreu. Et donc le miel est ainsi la nourriture délicieuse et fortifiante qui est produite par la parole, en l'occurrence par le dialogue entre Josué et l'Éternel, l'Éternel, la présence de l'Éternel qui est personnifiée là dans cet ange qui tient une épée à la main, qui est encore là une figure de la parole, bien sûr. Puis, dans le dialogue entre la Bible et notre propre vie aussi, et puis dialogue enfin entre la parole de Dieu qui évoque le chauffard, qui est évoqué par le chauffard, qui forme lentement l'homme dans ce dialogue intérieur, mais aussi ce dialogue entre les Hébreux eux-mêmes qui partagent le pain, qui dialoguent, qui discutent, qui débattent autour de la Bible. Oui, le miel qui est produit par cette dynamique de la parole partagée, de la parole reçue, de la parole donnée, et finalement, c'est encore une parole, c'est la voix des Hébreux qui s'exprime enfin, qui emporte la victoire sur la mort. Merci, ô notre Dieu, pour ta tendresse et pour ta force. Merci pour ce banquet gastronomique que tu nous offres. Merci pour cette telle abondance que tu offres pour chacun de nous. Amen.